Emprise, proposé par Jérôme Gac avec le mensuel Intramuros.
Bienvenue dans Emprise, aujourd'hui en compagnie de Yves Rechsteiner, directeur artistique du Festival Toulouse Les Orgues. Depuis 2014, Toulouse, ville dotée de près de 30 orgues et qui est donc également dotée de ce festival. Yves Rechsteiner, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous souvenez, sur quel orgue vous avez joué la première fois lors de votre première venue à Toulouse ou dans la région ?
Alors, j'ai souvenir d'être venu aux Augustins une première fois à l'invitation de Willem Janssen, qui était le directeur artistique à ce moment-là. Et je me rappelle m'être confronté à cette grande acoustique généreuse qu'est celle de la chapelle du musée des Augustins. Par la suite, j'ai effectivement été réinvité avec bonheur et je suis venu avec un clavecin, un pédalier, je suis venu avec des musiciens suisses, j'ai joué en région également. Donc même avant de m'installer à Toulouse, j'ai finalement découvert la ville rose au travers de ses orgues.
Et est-ce que vous avez un orgue préféré ?
Ah, voilà une question piège. Les organistes ont coutume, en fait, de cultiver la variété, dans le sens où notre répertoire est très large, allant du Moyen-Âge jusqu'à la création. Et l'orgue a évolué beaucoup au fil du temps, ce qui fait que nous aimons souvent changer d'instrument pour que chaque musique trouve, entre guillemets, l'orgue idéal pour s'exprimer. Alors, malgré ce long préambule, j'avoue avoir un petit faible pour l'instrument de la dalbade, qui est un grand instrument symphonique, sur lequel j'ai enregistré deux disques, un premier avec de la musique symphonique française et le deuxième consacré entièrement à une transcription que j'ai faite de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Mais je connais aussi très bien l'orgue de Sainte-Gabelle, au sud toulousain, sur lequel j'ai fait un disque Rameau, qui est un programme avec lequel je continue de jouer régulièrement avec percussion, même 10 ans après la réalisation de ce disque.
Alors peut-être qu'on va commencer par vous écouter jouer le bal, extrait de la Symphonie Fantastique sur l'orgue de la dalbade. C'est un enregistrement assez récent.
Je crois de 2013, d'après mon souvenir.
Donc nous l'écoutons.
Thank you.
Le bal extrait de la symphonie fantastique de Berlioz dans la transcription de Eve Rechsteiner, également interprète de cette symphonie enregistrée en 2013 sur l'orgue de la Dalbad. Donc vous êtes Eve Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse Les Orgues. Comment a évolué la programmation du festival sous votre direction ?
Alors j'avoue que la première chose qui, semble-t-il, a marqué un tout petit peu les esprits, c'est l'ouverture assez marquée vers d'autres genres musicaux que simplement la musique classique. Il y a eu des collaborations avec les siestes électroniques et avec d'autres structures toulousaines. Le but étant de renouveler peut-être le public de Toulouse Les Orgues. Alors, il faut dire tout de suite que nous avons un public très fidèle, que je salue au passage, puisque c'est lui qui fait justement ce festival. Mais je souhaitais évidemment ouvrir au-delà de ce public fidèle à de nouveaux auditeurs que j'ai essayé aussi d'intéresser par une approche différente de l'orgue, puisque en invitant des musiciens qui venaient de la scène électronique, par exemple, c'est très clair que l'orgue allait sonner dans des timbres tout à fait particuliers. Alors à ce stade, après une expérience de 4 ans, je me rends compte qu'effectivement, il y a des nouveaux auditeurs qui viennent à Toulouse Les Orgues. Je ne peux pas encore dire qu'ils sont forcément devenus des fidèles, je le souhaiterais bien sûr, mais il y a en tout cas eu un vrai phénomène de curiosité et d'intérêt de la part de personnes qui peut-être ne venaient pas régulièrement écouter un concert d'orgue. Je rappelle quand même une évidence, c'est qu'aujourd'hui, la culture d'entrer dans une église pour assister à un office religieux n'est évidemment plus du tout majoritaire. Et donc, l'un des challenges, l'un de nos défis en tant que festival qui faisons nos concerts dans des églises avec des orgues, c'est bien sûr d'ouvrir ces lieux et cet instrument à un maximum de public, car j'ai envie de dire, l'orgue est le seul instrument qui appartient à tout le monde. C'est un instrument de la collectivité. Et à ce titre, j'estime donc que tout le monde devrait pouvoir en profiter. J'ai tendance à dire aujourd'hui, le Festival Toulouse Les Orgues, c'est d'abord un acteur culturel de la ville. C'est une institution culturelle. Et même si certaines personnes continuent d'associer l'orgue à l'église, j'ai envie de dire, l'orgue, plus que jamais, est un outil musical très ouvert vers toutes les propositions artistiques.
Et donc il y a largement l'occasion à Toulouse, donc, puisque presque 30 orgues sont disponibles dans le patrimoine local, en région également.
Nous sommes une des régions très très vivaces au niveau de la culture de l'orgue. Beaucoup d'instruments ont été construits au 19e siècle et sont aujourd'hui encore en activité. Toutes les régions françaises n'ont pas cette chance. Nous avons cette chance-là peut-être avec l'Alsace, avec le Pays Basque, mais il y a vraiment, et je le dis toujours à Toulouse, une grande concentration d'instruments en nombre et en qualité. La chance que nous avons ici dans Toulouse intramuros, c'est que des gens viennent de très très loin, des États-Unis, du Japon, pour voir des instruments d'une très grande qualité, des instruments rares, des instruments uniques, mais je dirais presque une pléiade d'instruments uniques dans cette ville.
Certains sont classés monuments historiques, je crois qu'il y en a 9.
Oui, pas mal d'instruments effectivement tirent leur valeur de par leur histoire. Évidemment, le plus connu des Toulousains, c'est l'instrument de Saint-Sernin, qui est un grand instrument sorti des ateliers de la maison Cavaillé-Colle à Paris au 19e siècle. Donc cet instrument qui date en gros des années 1860 a traversé le 20e siècle sans grande transformation. Et je dis aujourd'hui, c'est un peu le vaisseau amiral de la flotte toulousaine. C'est un instrument très impressionnant par sa taille, par sa puissance et également par la beauté de tous ses timbres.
Alors, et celui de la cathédrale Saint-Étienne, comment le définiriez-vous ?
Alors, l'orgue de la cathédrale Saint-Étienne, d'abord, se définit par son emplacement. C'est l'un des plus anciens buffets d'orgue de la ville. Buffet d'orgue, cette façade que vous voyez donc lorsque vous rentrez dans l'église. Et celle que vous voyez à Saint-Étienne, il faut un tout petit peu lever la tête pour l'apercevoir, puisque l'orgue est accroché littéralement contre un mur, très très en hauteur. On appelle ça accroché en nid d'hirondelle. On a l'impression que l'orgue a été littéralement scotché contre une paroi de la cathédrale. Cela donne une très belle diffusion sonore. Alors, ce buffet en bois, qui date du XVIe siècle, est recouvert de magnifiques sculptures dont malheureusement on ne profite pas toujours parce que justement le public régulier est en bas dans la cathédrale et l'orgue est juché en hauteur à une certaine distance, je dois bien l'avouer. Et c'est un instrument qui est aussi impressionnant par le chemin qu'il faut parcourir pour y accéder, car il faut passer par-dessus une sorte de passerelle qui donne bien sûr dans le vide, autant à gauche qu'à droite. Et malgré les barrières de protection, ça reste toujours pour moi une expérience que de traverser cette passerelle, les jambes légèrement tremblantes par l'effet du vertige.
L'église Saint-Pierre des Chartreux, dont l'orgue est un des plus anciens à Toulouse.
Saint-Pierre des Chartreux, là aussi un très beau patrimoine, c'est un instrument qui remonte au XVIIe siècle et qui a été plusieurs fois remanié, mais qui est aujourd'hui, on va dire, un instrument de style classique français.
Alors certains concerts sont présentés au préalable?
Oui, alors j'en dis deux mots. Les concerts de 20h30, qui sont nos concerts de soirée, sont pour la plupart précédés d'une présentation faite par les musiciens eux-mêmes. Une présentation qui a lieu à 19h, soit dans le lieu même du concert, soit généralement dans un lieu qui se trouve très voisin du lieu du concert. L'idée étant que l'auditeur qui souhaite peut-être se renseigner plus sur ce qu'il va entendre, sur ceux qui voudront peut-être rencontrer les artistes ou poser des questions, peuvent le faire en amont du concert. La présentation sera assez brève, elle durera peut-être 20-25 minutes, avec ensuite un temps d'échange et de questions entre le public présent et les artistes. Et bien sûr que si cette présentation est terminée vers 19h45, le public a le temps de boire un verre, grignoter éventuellement 2-3 tapas, se présenter à l'entrée du concert et profiter pleinement de la soirée qui va suivre.
Yves Rechsteiner, vous êtes également claveciniste, j'ai oublié de le dire, et vous enseignez au Conservatoire de Lyon.
Oui, exactement. Je continue après plus de 20 ans de former des jeunes artistes au Conservatoire supérieur de Lyon. Je leur enseigne l'art de l'accompagnement sur l'orgue et sur le clavecin, l'art de ce qu'on appelle la basse continue. Et ma foi, c'est un plaisir toujours renouvelé parce qu'évidemment, les jeunes, c'est l'avenir de la musique dans les années qui vont venir. Et aussi parce que cette pratique de ce qu'on pourrait aussi appeler l'harmonie au clavier, l'harmonie au clavecin ou l'harmonie à l'orgue, je trouve que c'est une chose fondamentale. C'est une manière de rentrer dans la musique par la composition même. Et je crois même pouvoir dire que si aujourd'hui je suis plutôt connu comme organiste arrangeur, vous savez que dans des éditions ultérieures du festival, j'ai joué, comme vous l'avez passé, des extraits de la Symphonie Fantastique de Berlioz, j'ai joué même du Frank Zappa ou du Rameau, et ben cet art de la transcription repose quand même sur une très bonne connaissance de l'harmonie à la base. Et cette connaissance de l'harmonie, ben je l'ai acquise tout simplement en faisant de la basse continue, en apprenant moi-même à lire ces chiffres que l'on mettait sur la partition au XVIIIe siècle, et chaque chiffre étant le résumé d'un accord, d'une harmonie, comme une grille d'accords de guitare en jazz. Et cette pratique de l'harmonie donne une compréhension tout à fait particulière de la musique. Je dirais même que quand on comprend la musique par l'harmonie comme ça, on la joue de manière différente jusqu'à la transcrire, comme je le fais aujourd'hui.
La marche turque de Mozart par Yves Rechsteiner, orgue, Henri-Charles Cagé, percussion. C'est un enregistrement de transcription qui est dédié à Mozart et à Haydn.
Oui, toutes les œuvres sont transcrites entre guillemets par nos soins. C'est un CD que nous publions chez le label Parati. Comme d'habitude dans notre démarche à nous, nous sélectionnons des œuvres du répertoire qui nous plaisent, quelle que soit d'ailleurs leur instrumentation. Dans le cas présent, plutôt des œuvres de piano de Mozart et des œuvres d'orchestre de Haydn, extraites de ses symphonies. Dans un premier temps, je fais une transcription pour l'orgue. Et dans un deuxième temps, mon complice Henri-Charles Cagé compose littéralement ou invente des parties de percussion pour venir en complément de la partie d'orgue. Et au final, on a comme toujours quelque chose d'assez kaléidoscopique avec, je le précise, des percussions inventées également pour ce programme-là. C'est-à-dire que chacun des instruments d'Henri-Charles ont été combinés pour ce programme en particulier. Donc des imitations du glas harmonica que Mozart aimait, du glockenspiel qui fait partie également de cet univers. Donc même si les percussions sont très récentes, elles sont complètement en lien avec l'univers sonore historique, je dirais, de Mozart et de Haydn. Simplement, jouer à deux comme ça, avec les percussions en tribune, c'est pour nous une approche très orchestrale, autant de l'orgue que des percussions, et donc de proposer une relecture, je dirais, assez radicale de certaines œuvres. Alors bien sûr, vous connaissez la marche turque que Mozart a composée pour le piano. Ou alors, j'évoque également la grande fantaisie en do mineur pour piano, qui est une œuvre très dramatique, extrêmement riche en atmosphère et en thèmes variés. Et là aussi, l'orgue avec ses multiples timbres et les percussions avec ses effets dramatiques vont donner à cette œuvre-là, je dirais, encore un aspect plus terrible, en tout cas dans son début et dans sa conclusion.
Merci Yves Rechsteiner. Je rappelle que le Festival Toulouse Les Orgues se déroule à Toulouse et dans la région. Et nous nous quittons avec un nouvel extrait de votre enregistrement à paraître avec Henri-Charles Cagé aux percussions.
Je vous proposerai pour terminer par un extrait musical d'une symphonie de Haydn, Les Surprises, le deuxième mouvement de la symphonie Les Surprises de Haydn, qui donc là vous est proposé dans un arrangement pour orgue et percussion. Et comme vous le verrez au fil de la pièce, j'ai tendance à dire c'est un véritable magasin de jouets de percussion que l'on entend dans cette pièce, pourtant assez brève, mais avec une incroyable variété de différentes sonorités percussives.
Eh bien, nous l'écoutons et merci à vous.
C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser, on va rire et virevolter. Mais, quand elle met le hola, quand elle leur dit, ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola.
Vous écoutez Radio Radio 106.8.
Chaque lundi à 19h, vous avez rendez-vous avec la musique baroque, classique, lyrique et contemporaine dans Sonnez Crécelle. Sonnez Crécelle, une balade dans la discographie d'un artiste à l'affiche à Toulouse et dans la région, proposée par Jérôme.